Jérôme Ferrari, bonjour.
Bonjour.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
J'aimerais à présent profiter de votre présence pour évoquer en votre compagnie, avec vous, qui la connaissez profondément, qui l'aimait passionnément, la Corse, et faire connaître à nos chers auditeurs une littérature qui reste encore bien méconnue par ces belles contrées lyonnaises, marquée par de lourds stéréotypes, tout comme l'île qui porte cette littérature.
Che lo è tu che la sala maestra sopra le cime argento fino a maro l'al di là l'ala maestro serena bolunacola marina bolunacola marina e lutosa ansus in freba d'un pude la compagnia Chioso da lombriscia nieda di l'umano valsità, a gode l'aria serena come un'agola marina, come un'agola marina.
Oh, esilia vita, ha bisogno di sfera, ricusa un presente e a dottrina nera.
Je commencerai donc par une question un petit peu abrupte, voire peut-être même un petit peu absurde. Que représente, Jérôme Ferrari, la Corse pour vous, dans votre vie, et quelle place tient-elle dans votre écriture et votre œuvre ?
Je ne sais même pas comment trouver un superlatif, suffisamment superlatif, pour décrire ça. Moi, depuis que je suis tout petit, d'abord maintenant, c'est l'endroit du monde que je connais le mieux. Ça a fait l'objet pendant toute mon adolescence d'une passion quasiment aveugle, qui a fait place à un amour toujours profond mais un peu plus raisonné, je dirais. Et pour moi, ça a tout de suite et très vite été un réservoir à fiction absolument extraordinaire. D'une part parce qu'il y avait, on est quand même en Corse, on a une certaine place dans la littérature romantique française du 19e siècle, une place qu'on paye un peu cher d'ailleurs, puisqu'elle elle a quasiment conditionné non seulement l'image que les gens se font de la Corse, mais l'image que la Corse se fait d'elle-même.
C'est une
sorte de prison, et puis ça rend aveugle au réel. Hein. Moi, quand j'ai commencé à publier mon premier recueil de nouvelles, en même temps que tout de suite après Marco Biancarelli, qui constatait la même chose que moi, on avait l'impression dans les textes qu'on lisait que les gens parlaient d'un truc qui n'existe pas. C'est pas la Corse. Corse telle qu'on la vivait nous, on était tous les deux au lycée à Porto-Vecchio. C'était pas une terre de bandits d'honneur nourris à la farine de châtaigne. C'était un désert de 8 mois en hiver, suivi d'une frénésie estivale absolument invraisemblable, où les gens étaient plus préoccupés par les boîtes de nuit, les aventures sexuelles rapides et variées que par l'honneur des jeunes filles. Et en même temps, ce décalage étant lui-même un thème de fiction intéressant, et on l'a beaucoup exploité. Puis moi je déteste. Moi si j'avais eu à choisir, si j'étais Dieu, j'aurais certainement pas fait que la Corse soit développée de manière touristique. Mais comme il faut que je concède que je suis pas Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Et cet afflux touristique estival allié à un certain archaïsme social et à des particularités culturelles, c'est quand même un réservoir à rencontres improbables et à histoires rigolotes ou tragiques qui est vraiment inépuisable.
Je voudrais à présent vous parler, Jérôme Ferrari, si vous le voulez bien, d'un thème un petit peu plus sombre, mais néanmoins important. Cet ineffable je ne sais quoi dont parle Vladimir Jankélévitch, je veux parler de la mort. Après avoir écouté cet extrait du Liberame, chanson des morts que l'on chantait en Corse lors des messes funèbres et qui est présent dans votre roman au moment de l'enterrement du père de Mathieu dans son village natal. C'est un thème par ailleurs qui est récurrent chez vous comme dans une grande partie de la littérature corse. Vous allez même jusqu'à vous personnellement parler de Variété de la mort qui est le titre de votre premier livre. Selon vous, la mort tient-elle un rôle particulier en Corse et surtout tient-elle un rôle particulier dans la littérature corse?
J'espère que la mort tient un rôle important dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle société humaine, ça c'est sûr. Faudrait peut-être voir sociologiquement ce qu'elle est devenue chez nous. Elle est un peu mise sous le tapis. Je suis pas sûr que la mettre sous le tapis comme ça ou l'écarter soit une bonne chose, ni pour l'honnêteté intellectuelle ni pour la santé sociale. Maintenant, en Corse, il y avait quelque chose d'assez mortifère, oui, assez mortifère. Qui m'a beaucoup frappé, moi, la première fois que j'ai vu un enterrement en Corse, qu'on m'a laissé y aller, j'étais, alors là, vraiment, j'avais l'impression d'être dans un autre monde par rapport à ce qui pouvait se passer sur le continent, ces enterrements de 3 jours, c'est des choses, mais moi, qui m'ont pas effrayé, hein, au contraire, hein, j'ai toujours vu ça comme une participation, une réponse sociale à l'événement métaphysique considérable qu'est la mort. Mais il y a sans doute, au-delà de ça, qui est plutôt un trait ethnologique qui me paraît estimable, une forme peut-être, je le crains, de tropisme nihiliste en Corse, et qui fait qu'on penche, pour reprendre encore une définition nietzschéenne, celle de la décadence, qu'on se dirige spontanément vers ce qui nous est néfaste et qu'on glorifie un peu ce qui s'oppose à la vie. Il doit y avoir des sources pas seulement culturel et social, mais historique. Moi, les tableaux qu'on m'a fait des années 20 ou des années 30 en Corse, c'est pas des sociétés joyeuses. Hein.
On voit par ailleurs cela chez un autre auteur de la littérature corse, qui est Marie Souzini, qui a notamment écrit La Fiera, et qui est décédé en 1993, qui n'est pas de votre génération, Jérôme Ferrari, mais qui pourtant décrit, lors des années 20, des années 30, cette lourdeur, ce poids de la mort qui en fait s'insère, s'immisce dans le quotidien, à tel point même qu'on a l'impression qu'il paralyse la vie.
Mais la société est presque morte, les villages sont morts. Je sais pas dans quel. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'espèce d'ambivalence qui était celle de mes grands-parents par rapport à la Corse, pour lesquels ils avaient une espèce d'amour inconditionnel lié en même temps à une espèce de quasiment de haine, hein, farouche, qui est effectivement liée à l'expérience qui était la leur d'avoir vécu dans un endroit mortifère. Et j'ai pensé, j'ai utilisé la comparaison entre le village et un cimetière dans un animal. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste encore plus le tourisme, hein, parce que ça contribue à... C'est pas les touristes que je déteste, mais le tourisme me semble être un bon moyen de continuer à pérenniser cette espèce de survie presque létale.
Existe-t-il par conséquent, selon vous, Jérôme Ferrari, vous qui connaissez bien la littérature corse, et lorsqu'on pense à Marie Souzini, on ne peut que penser à cela, une marque, une signature, peut-être un souffle corse dans l'écriture, comme on pourrait par exemple parler, peut-être un peu rapidement, mais d'un esprit français ou d'une âme russe dans l'écriture?
Alors je ne peux pas le savoir. Parce que du coup, là, la connaissance intime est un handicap. Ce sont des choses qu'on voit mieux de loin. Je me suis fait la réflexion la dernière fois en lisant un nouveau roman chilien écrit par quelqu'un qui a 25 ans, qui est un très 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 beau roman, il s'appelle Chien Féraud, Daniel Becerra. Superbe roman. J'ai su au bout de 10 lignes qu'il était écrit par un Sud-Américain. Et pourtant... c'est pas un Garcia Marquez, c'est pas et les auteurs sud-américains sont très différents les uns des autres, mais notre regard éloigné fait que on saisit vite les, enfin plus on est éloigné, plus on voit les points communs et plus on est proche et plus on est sensible aux différences. Et moi là, pour la littérature qui se fait en Corse, je suis pas proche, je suis en plein dedans. Et donc je peux voir par exemple les points communs entre ce que j'écris et ce qu'écrit Marco Biancarelli, notamment parce qu'on a des préoccupations communes, parce qu'on a un souci d'authenticité dans notre rapport aux questions sociales, mais c'est pas ça qui fait un tropisme corse. Et donc il faut plutôt un regard éloigné pour répondre à cette question-là. Et je pense à Jean-Baptiste Préda, lui aussi. Et alors voilà, je pense que Jean-Baptiste, Marco et moi, on a des écritures qui sont très 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 différentes. Maintenant, peut-être qu'un lecteur éloigné un peu de ça, il verrait un point commun. Moi, j'arrive pas à le voir.
Je voudrais à présent, Jérôme Ferrari, évoquer un aspect qui, au premier abord, a tout d'un truisme, la Corse. La Corse est une île. Elle est géographiquement un espace fermé, cerné par une mer qui l'englobe et qui la ceinture. C'est peut-être pour cela que vous décrivez cette Corse comme un lieu d'enfermement, comme on peut le voir dans ce passage du sermon sur la chute de Rome, avec Mathieu qui refuse même d'aller voir son père à Paris, alors même qu'il essaye, dans une sorte de tentative héroïque pour lui, de quitter son village. Écoutez. Le lendemain, il se mit en route avec Libero. Ils confièrent les clés du bar à Bernard Grattas. Ils embrassèrent les filles et ils partirent pour Ajaccio, en faisant des signes d'adieu et en criant « Soyez sages, hein, ne nous coulez pas la baraque, hein, et surtout, à la semaine prochaine !» Sur la route, ils parlèrent de ce qu'ils allaient faire à Barcelone. Ils avaient besoin de se détendre, ils l'avaient bien mérité, et ils arrivèrent à Campo del Oro avec 1h30 d'avance. Ils s'installèrent au bar de l'aéroport et burent une bière, puis deux, et leur conversation se tarit lentement. Ils finirent par se taire complètement. Les passagers du vol pour Paris étaient appelés en salle d'embarquement, mais il restait une demi-heure, rien ne pressait, et ils commandèrent une dernière bière. Mathieu regardait les pistes et il avait la gorge sèche. Son ventre gargouillait désagréablement. Il prit brusquement conscience que cela faisait maintenant près de 10 mois qu'il ne s'était pas éloigné du village à plus de 15 kilomètres. Ajaccio était au bout du monde. Jamais il n'était resté aussi longtemps au même endroit. La perspective de s'envoler pour Paris lui semblait maintenant redoutable, pour ne rien dire de Barcelone, si lointaine qu'elle en devenait dépourvue de réalité. C'était un lieu de brume et de légende, l'équivalent terrestre de la planète Mars. Mathieu se rendait parfaitement compte que sa peur était grotesque, mais il était incapable de lutter contre elle. Il regardait Libéraux, qui fixait son verre, les dents serrées, et il vit qu'il partageait la même peur. Ils n'étaient pas des dieux, mais seulement des démiurges. Et c'était le monde qui les avait créés qui les tenait maintenant, sous l'autorité de son règne tyrannique. Une voix insistante annonça que les passagers Libéraux Pintus et Mathieu Antonetti étaient attendus d'urgence avant la fermeture des portes. Et ils surent que le monde qu'ils avaient créé ne les laisserait pas partir. Ils restèrent assis. Et ce fut le dernier appel. Et quand l'avion eut décollé, ils se levèrent en silence, prirent leurs sacs et regagnèrent le monde auquel ils appartenaient. Jérôme Ferrari, je vous pose la question, après la lecture de ce passage, existe-t-il une sorte d'ouverture en Corse ou n'est-elle qu'un enfermement à la fois géographique et mental chez les gens qui y vivent et qui y sont attachés ?
Non, je ne peux pas parler, je ne peux pas tenir un discours aussi globalisant sur la Corse, ni en termes d'ouverture, ni en termes de prison. Il y a des forces, pas des individus, hein, je vais dire, des forces qui tendent à l'ouverture et manifestement des forces qui n'y tendent pas. Je ne sais pas comment ce jeu de force va pouvoir s'équilibrer ou comment l'une va l'emporter sur l'autre. J'ai pas l'impression que dans les périodes de grande angoisse identitaire qui n'est en rien, alors là c'était une évidence, le propre de la Corse. Tout le monde a l'impression que son angoisse identitaire est tout à fait spécifique au moment où tous les autres en même temps à côté ont des grandes angoisses identitaires qui nécessairement débouchent sur des relations sur des attitudes de d'enfermement et de fausse glorification de soi-même et de conception rigide de ce qu'on est, et j'espère que c'est pas ces forces-là qui vont gagner.
À la suite du roman Le Sermon sur la chute de Rome, qui vous a valu le prix Goncourt en 2012, vous avez décidé, Jérôme Ferrari, de quitter la Corse et de partir pour Abu Dhabi. Est-ce que cette volonté s'inscrit dans la continuité d'un projet littéraire, peut-être comme l'aboutissement de ce roman qui témoigne quand même d'une certaine angoisse, d'une certaine sensation d'enfermement, voire d'étouffement, par rapport à la Corse, ou est-ce pour toute autre raison, peut-être pour partir et mieux retrouver la Corse un peu plus tard, Jérôme Ferrari?
Non, j'ai pas, c'est pas une fuite, hein, pas du tout. Hein. J'étais très heureux à Ajaccio quand j'ai décidé de faire ça, mais tout simplement, j'ai toujours aimé avoir des expériences à l'étranger. Maintenant, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, mais il n'y a rien qui remplace le fait d'aller s'y installer. En plus, les contrats de ce genre sont des contrats à durée déterminée qu'on passe avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, où on rentre chez soi après. Parce que comme on est fonctionnaire, on a la chance de savoir qu'en plus, on peut rentrer chez soi. Et non, il n'y avait aucun mouvement de fuite ou de dégoût de ma part, là, juste, non, tout était positif, j'avais encore envie d'avoir une expérience à l'étranger.
Jérôme Ferrari, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous nous avez consacré.
Merci.
Je ne peux que recommander chaudement la lecture de vos œuvres, dont le dernier roman, je rappelle le titre, Le Principe, paru aux éditions Actes Sud, vient de sortir. Je recommande également à mes chers auditeurs avides de connaître plus profondément ce que peut être une littérature corse, parlant à la fois de la Corse mais d'autres sujets, le prix Goncourt 2012, Le Sermon sur la chute de Rome, ou encore un ouvrage qui parle de la guerre d'Algérie, où j'ai laissé mon âme. Pour le reste, je rends le micro sur cette belle chanson qui est, je crois, l'une des préférées de Jérôme Ferrari, soumis lien du groupe polyphonique corse Avilet, à traduction française de La Fougère, en référence à un proverbe corse qui était adressé au jeune qui, à un moment, quittait son île. On lui disait « N'oublie pas la fougère », c'est-à-dire « N'oublie pas d'où tu viens », la fougère étant l'un des symboles de la Corse. Alors je vous dis tous, très chers amis transhistoriens, « Un discours dédié à Avilet ». Et à très bientôt sur Transistor.
Dida, sinavera. Jesús.